Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission Cryptopédago qui vous explique simplement Bitcoin, les blockchains et la décentralisation numérique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Michael Amar, l'organisateur du Paris Blockchain Week Summit, l'événement crypto et blockchain le plus important jamais organisé en France et avec lequel Capital est partenaire. Celui-ci aura lieu à Paris les 16 et 17 avril et ça sera l'occasion de venir écouter parmi les plus grands spécialistes mondiaux, tout protocole confondu. Que ce soit Bitcoin, Ethereum, Tezos, IOTA, Dash, j'en passe et des meilleurs, il y en aura pour tous les goûts et ça sera un moment unique pour échanger les points de vue au sein d'une communauté qui adore se chamailler. En plus de la présentation de cet événement, Michael Amar nous en dira davantage sur son passé d'entrepreneur tech, lui qui vient à peine de revenir en France après avoir passé de longues années en Californie. Homme de réseau et d'influence, il nous racontera comment lui est venue l'idée du Paris Blockchain Week Summit, lui qui organise aussi les Crypto Mondays Paris, une réunion mensuelle où ceux qui travaillent dans le secteur blockchain et crypto ont pris l'habitude de se retrouver. Michael Amar nous expliquera pourquoi Paris a une chance de devenir l'une des grandes capitales du secteur, aux côtés de Berlin et Amsterdam en Europe, et surtout, comment le Paris Blockchain Week Summit peut y contribuer. Bonjour Michael Amar, bienvenue dans 21 millions.
Bonjour Grégory.
Alors, j'ai choisi de vous inviter car vous êtes l'un des papas de la Paris Blockchain Week, l'un des plus grands événements blockchain et crypto à se tenir en France cette année. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un point sur qui vous êtes vraiment. On vous connaît principalement pour être à la tête de Chain Accelerator, le programme de Station F dédié aux startups blockchain, mais vous avez déjà une riche carrière derrière vous, je crois. Hein.
Longue en tout cas, j'ai commencé assez tôt, en 94 dans le web, en montant une web agency, et 94 dans le web, c'est peut-être comme 2013 dans les cryptos. Pour vous donner un comparable. Donc Web Agency jusqu'en 2000, et en 2000 j'ai eu un premier clin d'œil au monde de la blockchain, précurseur, parce que j'ai voulu monter un concurrent de Calcou, qui était déjà assez bien en place, il y avait le gros budget marketing en 2000, et on a monté un comparateur de prix, en tout cas une galerie marchande, sauf qu'on voulait, voilà, on devait concurrencer Calcou, c'est pas évident sans budget marketing, donc on s'est dit on va essayer d'être malin, et on va essayer d'offrir des points de fidélité à tous les gens qui allaient acheter chez Cdiscount, chez Rue du Commerce, etc., depuis ce portail. Sauf qu'on était deux boîtes en formation et on n'avait pas vraiment de ressources pour offrir quelque chose, pour compenser ces points. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que le seul asset qu'on a, c'est nos actions, c'est notre société. Donc on va donner des actions à tous les consommateurs qui auront consommé chez nous. Donc là, on appelle un avocat, il nous dit ouais, « je pense que vous devrez passer un coup de fil à la COB, donc l'ancêtre de l'AMF, et leur demander si vous pouvez le faire, parce que je pense que ça va être compliqué. » On y va, 24 ans, je crois, 25 ans à l'époque, on leur demande si on peut, ils me disaient pas de problème, sauf que vous avez donné des actions à plus de 100 personnes, donc vous faites appel public à l'épargne, et pour ça, il vous faut faire un prospectus, un visa, donc laissez tomber. Et donc on part un peu dépité, on tombe sur un autre avocat qui nous dit « vous pouvez les forcer à ce qu'ils vous le donnent ». Parce que normalement, il aurait fallu avoir 50 bilans, un niveau de revenu suffisant, des ressources, etc. Et en fait, il y a un trou dans la législation, c'est que nous, en fait, on a créé une créance. On avait créé une créance vis-à-vis de nos consommateurs. On leur avait promis quelque chose. On n'avait pas autre chose à leur offrir que des actions. Et donc, on a pu faire une compensation de créance et leur offrir des actions sur un marché qui était fermé, qui était que le nôtre. Et donc, on a créé le concept des actionnaires internautes en avril 2000, qui est très proche du phénomène des ICO ou d'incentives avec des tokens. Donc ça, c'était en 2000, après, il y a eu le crack, on a pivoté plusieurs fois, on a monté une autre société qui était une agence. J'accélère un peu dans mon parcours. On a fusionné les trois sociétés en 2007, revendu à un acteur français qui s'introduisait en bourse et qui avait des bureaux de recherche et développement à Palo Alto, en Californie. Je suis parti habiter en 2008. Donc je les ai accompagnés jusque fin 2009. Et après, j'ai monté une société qui s'appelle I Feel Goods en 2010, qui a un autre clin d'œil au monde de la blockchain et des cryptos, parce qu'on s'est monté sur la base d'un partenariat avec Facebook qui avait à l'époque créé les Facebook Credits, qui était leur monnaie virtuelle, qui permettait de voir des films en streaming à l'époque sur Facebook ou jouer à des jeux tels Farmville, si vous vous rappelez. Et donc on avait négocié un accès direct à leur API et on pouvait offrir aux des gens qui faisaient n'importe quelle action. Ils allaient acheter chez Walmart ou faire un check-in dans un magasin Gap et recevoir instantanément des crédits sur leur téléphone ou sur leur desktop. Donc très proche de cet univers d'incentive et de direct deposit depuis les années 2010.
D'accord.
Je suis donc rentré en France l'année dernière.
Et c'est là que je vous ai rencontré. Donc oui, la première fois qu'on s'est vu, c'était dans le cadre des Crypto Mondays, un événement que vous organisez à Paris chaque mois depuis un an à peu près, et où les différentes composantes de l'écosystème blockchain se rencontrent. Alors on peut dire qu'avant même d'organiser la Paris Blockchain Week, vous aviez déjà senti l'intérêt de ces événements où les gens se retrouvent pour discuter et faire des affaires, hein.
Bah, en ayant vécu près de 10 ans dans la Silicon Valley, où il y avait énormément de meet-up, où en fait c'est extrêmement enrichissant de rencontrer les meilleurs du domaine qui étaient accessibles et des gens qui venaient du monde entier, je suis tombé sur un article sur les Crypto Mondays en général qui avait été lancé par Lou Kerner, qui est le premier analyste chez Facebook que j'ai connu d'une dizaine d'années. Bah, j'ai vu que c'était l'essai de regrouper un peu la crème de la crème de l'univers crypto à New York, et rapidement il a ouvert ça dans 30 villes dans le monde. Je pense qu'on était peut-être la 10e ville et on a pris une sorte de licence. Et l'objectif des Crypto Mondays Paris, c'est de regrouper entre 200 et 300 personnes une fois par mois, des gens dont l'activité principale est quand même autour de la blockchain et de la crypto. Donc on a un petit peu de curieux, mais pas trop. On est vraiment plutôt dans un cadre professionnel. Et on a pour particularité d'être, je pense, le seul événement vraiment international, parce qu'on arrive à faire venir des speakers du monde entier. Des gens se déplacent de New York, de Londres, mais aussi d'Asie, juste pour venir, parfois juste pour notre soirée. Donc on a eu des patrons, par exemple, des fondateurs de Tezos. On a eu Brock Pierce récemment. On a eu Blockstack. On a eu Blockchain.com. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être inspiré par des speakers qui ont déjà réussi des projets majeurs dans le domaine de la crypto.
Et souvent ça se passe dans des lieux publics, hein. On est allé à la BPI déjà, il y a eu à la Caisse des dépôts et de consignations.
On a fait des partenaires comme Gide, on l'a fait à la station F, donc on est souvent hébergé par des amis ou partenaires.
D'accord. Et donc, avec vos partenaires, vous organisez la Paris Blockchain Week du 13 au 18 avril à Paris, à Station F, où nous sommes actuellement d'ailleurs. Le point d'orgue de cette semaine de manifestation sera le Paris Blockchain Week Summit. Est-ce que vous pouvez nous présenter le menu des réjouissances ?
Oui, avec plaisir. Donc en fait, on est trois co-organisateurs des Crypto Mondays et en même temps du Summit. Donc je représente Chain Accelerator dans ce cadre-là. Il y a la société Wharton et la Association française des crypto-monnaies FGC et la société DataLens également. Et donc on s'est réunis en se disant un constat d'avoir échangé avec les speakers qui sont venus régulièrement nous voir en disant mais il se passe des trucs en France mais on n'est pas du tout au courant. Donc vraiment on s'est posé, on s'est dit on est en train de travailler sur un cadre réglementaire qui est quand même assez unique. On a du talent, on a des entrepreneurs qui ont la niaque. Et on est de plus en plus globaux dans notre approche. Les nouvelles générations, on est beaucoup plus à l'aise avec l'anglais, les gens ont beaucoup plus voyagé. Donc on devrait pouvoir bien s'insérer dans l'écosystème blockchain. Par contre, personne ne le sait. Nous, on est quotidiennement confrontés à des gens qui nous disent, que ce soit les Binance, les OKX, pour parler des exchanges, mais beaucoup de sociétés qui, quand elles veulent venir en Europe pour étendre leurs activités, pensent à Berlin ou Amsterdam, mais pas à Paris. Donc on s'est dit, il faut que ça change, parce que dans 2 ans, ça sera trop tard. On risque de regretter, comme avec l'IA, de ne pas avoir pris le train au bon moment. Donc il faut aller vite et fort et essayer de faire une vraie conférence internationale à Paris en ramenant les meilleurs speakers mondiaux.
D'accord, et je tiens à souligner auprès des auditeurs de 21 millions que Capital est partenaire de l'événement et que nous le suivrons au plus près. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent s'y rendre, nous proposons un rabais de 10% sur le prix des billets grâce au code promo Capital. Vous trouverez tous les détails dans la description, hein. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle des personnalités qui viendront s'exprimer lors du sommet. Ce qu'on remarque, c'est que l'éventail est varié et très international, hein. Il y aura le passionnant Arthur Bretman de Tezos, le directeur financier de l'exchange Binance, le patron de Blockchain.info, celui de Blockstack, Primavera de Philippi du CNRS et d'Harvard, des gens de Ledger, Parity, Dash, IOTA, Hyperloop, j'en passe et des meilleurs, hein. Au final, combien de personnes viendront parler à la tribune ?
Alors on devra plus d'une centaine de speakers, dont 90% internationaux. On a 4 tracks en fait. On a donc un track qui est lié à l'investissement, et les théories d'investissement sur la blockchain. On a un track sur la technologie pure. On a un track sur la partie régulation. Et le dernier track qu'on vient d'annoncer la semaine dernière est un track sur les corporates et donc les études de cas blockchain appliquées par les plus grands groupes mondiaux. On a des gens, notamment l'ancienne responsable de General Electric qui vient parler de projet, et on a des grands acteurs de corporate français également.
D'accord. Et vous avez pour habitude d'annoncer les nouvelles personnalités au compte-gouttes. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres poids lourds annoncés d'ici les deux prochains mois ?
Oui, j'espère chaque semaine.
Et pourquoi avoir choisi autant de speakers internationaux ? Est-ce que c'est une manière de signifier à l'écosystème mondial que Paris a aussi sa carte à jouer parmi les grandes capitales de la blockchain ?
Il y avait deux objectifs. Il y avait un, les plus grands speakers sont en fait les porteurs des plus gros projets d'infrastructure. Je crois qu'on est peut-être la première vraie conférence internationale à avoir lieu en France où il n'y a pas qu'une infrastructure ou un protocole qui est mis en avant, mais on laisse vraiment la place à l'ensemble des protocoles pour pouvoir s'exprimer. Et tous ces gens-là ont un besoin vital de créer leur développeur network, d'inciter les gens, que ce soit les corporates ou les startups, à développer sur la technologie. Et donc, en leur donnant cette tribune et en leur montrant qu'on les comprend et qu'on peut parler de pair à pair avec eux, on va essayer de les inciter à venir installer leur business ici. Donc vraiment, la logique, c'était de motiver ces speakers, qui sont les gros entrepreneurs du domaine, à venir s'installer durablement à Paris. Donc ça, c'était le 1. Et en même temps, ils sont vecteurs d'exemple pour l'écosystème local et pour nous aider à faire des business deals avec les startups ici, avec les corporates ici, et à créer des vocations auprès de futurs entrepreneurs.
Et vous qui avez longtemps vécu en Californie, est-ce que vous croyez que c'est possible que la France vraiment creuse son sillon dans la blockchain ?
Je pense que c'est possible, qu'il faut aller très vite. Il y a plusieurs raisons qui me font dire ça. Pour la première fois, l'innovation ne vient pas que de la Silicon Valley. Enfin, pour la première fois de ce que je vois, des grandes innovations des 20-30 dernières années, on voit que ça part d'Asie, on voit qu'un pays comme la Corée, comme le Japon, mais on voit aussi que des places vraiment diverses et variées, même en Afrique, il y a des projets très intéressants. Et donc on se dit, ben voilà, c'est enfin, on peut. Mais il y a un manque de ressources qui est énorme. Donc il n'y a pas une place quelque part qui peut forcément gagner tout le marché de la blockchain. Donc il faut qu'on crée notre espace. Il faut qu'on le fasse en étant ouvert. Si on veut juste faire un cocorico gaulois et en disant que les meilleurs du monde, ça ne marchera pas. Mais il faut qu'on montre qu'on est un bon endroit pour s'étendre au reste de l'Europe, voire au reste du monde. Donc il faut montrer que les passerelles sont là avec tout le monde, que nous on crée un cadre réglementaire sexy, qu'il y a des talents extrêmement bons, qu'on est ouvert au niveau du business et des investissements. Et à partir de là, on va vraiment pouvoir... On sera jamais la blockchain nation avant les autres, mais on peut être un point de polarisation très important dans cette économie.
Bon, j'aimerais qu'on revienne aux conférences en tant que telles. Quels seront les grands sujets abordés lors des tables rondes ? Vous nous l'avez dit brièvement, hein.
Oui, on va essayer de parler des gros sujets actuels, par exemple sur la régulation. On va avoir un sujet sur l'état de l'art de la régulation en Europe. On va voir comment les Français ont pris un parti pris. On va se pencher sur les STO, qui est un gros sujet actuel. Au niveau technique, on va parler de clés publiques et de clés privées. On va parler de la gouvernance et des différents chemins vers la décentralisation. Et on va parler aussi de sujets du type le marché OTC. On va parler du rôle des exchanges, qui est quand même assez prépondérant aussi dans la liquidité. Donc on va essayer de vraiment taper les sujets névralgiques de l'économie.
Et parmi les conférenciers, on remarque la présence du ministre des Finances Bruno Le Maire, et la Paris Blockchain Week est d'ailleurs organisée sous le haut patronage de Bercy. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors on a essayé déjà d'inscrire un peu comme c'est fait dans le monde entier. On a eu toutes les grandes villes au monde ont une X Blockchain Week, on va dire, donc Londres, San Francisco. Comment ça se passe ? En général, vous avez un sommet central de deux jours du type de ce qu'on fait avec le Paris Blockchain Week Summit. Mais tout autour, on laisse la place à d'autres associations, d'autres initiatives pour aussi profiter, préempter un peu la place que pourrait prendre Paris pendant une semaine sur le sujet blockchain. Donc il y a Bercy qui a des annonces à faire bientôt dans le cadre de la loi Pacte et qui travaille énormément sur le sujet des cryptos depuis près de deux ans. Qui avait prévu de faire un événement. Ils nous ont contactés en nous demandant si on pouvait faire ensemble pour avoir encore plus de force. Et donc, ils vont faire le 15 avril au matin, donc la veille de la conférence du summit, un colloque en invitant des politiques de différents pays et des personnes clés de l'écosystème sur la partie régulation. Donc, c'est un sujet dans lequel ils vont évoquer comment eux ont réfléchi à la régulation en France spécifiquement et aux problèmes rencontrés. Donc je pense qu'il y a Bruno Le Maire qui va introduire et la clôture devrait être faite par Mounir Majoubi. Et tout au long de la semaine, il y aura d'autres événements qui vont être faits. On a une job fair pour le recrutement qui va être mise en place. Il y a un colloque qui va se faire à Dauphine. Il y a un colloque également à la Sorbonne. Il y a Tezos qui va faire sa journée Tezos mondiale dans la semaine. Donc il y aura, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'événements qui vont émailler cette semaine.
D'accord. Et pour en revenir au ministère, moi j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux que la présence de Bruno Le Maire était critiquée, mais je voudrais souligner quelque chose, c'est que dans la plupart des grands événements internationaux, les politiques sont souvent oubliées. Alors on peut penser ce qu'on veut de la régulation française qui est mise en place, qui va être mise en place, mais le fait de faire participer les politiques à cette grande messe, je trouve que ça a de l'importance. C'est de ne pas les exclure, en fait.
Oui, pour être honnête, je n'avais pas fréquenté des gens de Bercy ou du gouvernement beaucoup dans le passé. Ça m'est arrivé de le faire beaucoup plus régulièrement là, sur ces sujets. Et j'ai trouvé des gens qui... Il y a des contraintes, voilà. On ne peut pas être les plus innovants. On ne sera jamais un paradis fiscal pour la crypto. Il faut l'assumer. Mais c'est des gens qui ont vraiment creusé le dossier, qui ont compris les besoins du marché, des startups et de l'écosystème, et qui viennent avec quelque chose de plus agressif qu'on aurait pu penser, et non pas conservateur comme il peut se passer en Angleterre. Et je pense que leur donner la parole permettra, un, de voir de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et aussi d'essayer de pousser nos sujets. Mais j'ai trouvé des gens plutôt très réceptifs à notre univers.
Et en dehors du cycle de conférences, ça sera également l'occasion pour les entrepreneurs d'étendre leur réseau et de faire des affaires. Alors, comment ça va se passer? Mettons, voilà, je suis entrepreneur, j'achète mon ticket, je viens voir les conférences, mais voilà, est-ce qu'il va y avoir un espace dédié pour que je puisse parler de mon projet ou pas?
Bien sûr, alors déjà, quelques jours avant la conférence, on va ouvrir une app de networking, et donc ils pourront prendre des rendez-vous directement avec tout participant qui le souhaite, que ce soit des speakers, des sponsors, des partenaires ou autres participants. Il y aura des salons privés qui vont être dédiés à certains grands corporates ou grands acteurs et qui pourront recevoir dans ces espaces-là. On prévoit aussi beaucoup de breaks pour le déjeuner, pour des pauses café, qui seront dans lesquels on va faciliter les échanges. Il y aura aussi une possibilité dans une salle de pitcher sa start-up devant un parterre d'investisseurs et de partenaires potentiels. Et en parallèle, on va l'annoncer déjà la semaine prochaine, il y aura un concours aussi de start-up en ligne et les trois gagnants seront invités à la conférence, les trois finalistes, et pitcheront au final pendant la conférence.
Donc, dites-nous en plus de ce concours en ligne, comment ça va se passer?
Alors on va publier un lien, je crois lundi ou mardi, dans lequel en fait il y a une dizaine de questions, on peut pousser sa présentation. On a un jury qui est en train d'être établi avec trois ou quatre personnalités. Et ils vont sélectionner, on va présélectionner quand même une vingtaine de dossiers pour eux. Et après ils les noteront de 1 à 5 et les trois meilleurs seront sélectionnés pour participer.
D'accord. Et n'importe qui peut participer. On peut être français, on peut être en dehors de la France, pas de problème, quoi.
Ouvert à tout le monde, au contraire.
D'accord. Et il faut préciser que ceux qui font partie du cœur de l'écosystème, à savoir les développeurs, les chercheurs et les étudiants, vont pouvoir bénéficier de tarifs réduits. Est-ce que vous pouvez nous les détailler?
Oui, on vient donc de lancer il y a quelques jours des tarifs adaptés un peu à chaque population. Donc en ce moment, en prix early bird, comme on dit, pour les étudiants, il y a des prix à 126 €. Pour les universitaires, il y a des prix à 336 €. Pour les développeurs, il y a un prix à 180 €. On a un prix journée également à 660 €.
D'accord. Et on peut toujours appliquer le code promo capital de réduction de 10%, hein, c'est bien ça?
Tout à fait.
Merci d'être passé dans 21 millions.
Merci Grégory.
Merci beaucoup à Michael Amar d'être passé dans 21 millions. Merci également au brillant Ezad qui a composé ce générique qui nous berce depuis 14 épisodes déjà. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents 21 millions sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt.